podcast, la première. Au positif,
Lionel Francard.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver en ce jeudi. J'espère que vous vous portez bien. La fine équipe est au complet avec Laurent Nélissen qui s'amuse de l'autre côté de cette vitre qui nous sépare malgré tout dans ce grand studio. Yasmina Moudou est aussi présente pour la réalisation de cette émission. Et puis vous, chaque jour, merci d'être là à notre écoute, de réagir à nos émissions, même si c'est vrai qu'en ce moment, durant les vacances, nos invités ne sont pas en studio puisque ce sont des rediffusions. Mais ça fait toujours plaisir évidemment de recevoir vos messages et entendre votre intérêt pour nos sujets. Aujourd'hui, tout comprendre du trouble de la personnalité borderline, mieux comprendre en tout cas cette maladie réelle qui prive ceux qui en sont atteints d'un contrôle de leur vie et d'une reconnaissance de leur souffrance aussi. Trois psychiatres reconnus viennent de publier une sorte de carnet de bord susceptible d'aider la personne borderline à comprendre les mécanismes de ses débordements et à choisir une voie thérapeutique adaptée. Un livre que peuvent également s'approprier les professionnels, mais aussi, surtout, les familles et proches de personnalités borderline. Alors, Martin Dessay, médecin psychiatre, psychothérapeute, professeur à l'Université de Namur, est présent au micro de Véronique Thiberguian. Il était en studio avec elle et puis il y avait également Bernadette Grosjean, autre auteur, médecin psychiatre et psychothérapeute qui est belge mais qui a migré aujourd'hui aux États-Unis. Elle était par téléphone. Et puis n'oubliez pas, restez avec nous jusqu'au bout puisqu'il y a ce feuilleton inédit proposé par Véronique, Les petits hasards de la science. Il reviendra sur la chimiothérapie et les neurotransmetteurs. Tout de suite, c'est l'heure de notre autopsie des news, l'ADN à 11h et presque 5 minutes.
ADN,
Lionel Francard.
Une news insolite pour démarrer cet ADN, on peut disséquer virtuellement des cadavres. Oui, c'est possible à l'Université du Michigan qui a créé un logiciel qui permet de disséquer donc en 3D un cadavre virtuel. Une invention qui semble utile pour les étudiants en médecine, en cours d'anatomie, même si cela ne remplace pas les vraies dissections. Mais c'est vrai que cela peut permettre peut-être de pâtir un certain manque de dons de corps. On avait fait un appel d'ailleurs par rapport à cela, on reviendra certainement là-dessus, donner son corps à la science et aussi permettre à nos médecins de pouvoir se former. Mais ici, nous parlons donc de cette nouvelle possibilité de disséquer virtuellement des cadavres à l'Université du Michigan. Et je vous ai d'ailleurs posté une petite vidéo plus explicative en images, vous comprendrez mieux, sur notre page Facebook. Et on peut observer un jeune homme qui joue avec un joystick équipé de curieuses lunettes surmontées d'antennes. Alors, il ne s'agit pas d'un gamer banal normal, mais plutôt d'un étudiant en médecine, en plein cours d'anatomie. Son cadavre, c'est un hologramme en 3D qui prend vie dans ses lunettes. Et avec sa manette, il procède avec concentration à sa dissection minutieuse en sautant d'un organe à l'autre. Tout ça pour mieux observer dans une réalité virtuelle les moindres recoins du corps humain sans se salir les mains. C'est vrai que ça a cet avantage. J'imagine qu'il y a l'odeur en moins aussi. Néanmoins, c'est pour ça que la dissection véritable, les cours d'anatomie véritable permettent encore de garder la réalité avec le corps. Mais donc, plus divertissant, mais surtout plus complémentaire, manifestement, que l'anatomie classique. Le système projette les images dans une pièce plongée dans l'obscurité. Les lunettes donnent accès à cette rencontre surréaliste. Et avec un joystick en guise de scalpel, eh bien, l'observateur peut trifouiller le corps à sa guise et l'examiner au millimètre près. Couper, zoomer, élargir, les applications dépasseraient largement le cadre d'une dissection en chair et en os. On peut couper le cerveau, sauter dans le corps et l'expérience est vraiment édifiante, comme nous signalent les chercheurs de l'Université du Michigan. L'invention pourrait à terme dépasser le cadre médical et on comprend être exploité dans l'archéologie, par exemple, l'architecture, l'art ou encore l'ingénierie.
Au positif,
ADN.
Regardez attentivement ce médicament. Les médicaments méritent un peu d'attention. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Il contient des substances actives qui ont des effets sur votre organisme. Mal utilisé, il peut être dangereux. Suivez la prescription de votre médecin et les conseils de votre pharmacien. Les médicaments, ne les prenez pas n'importe comment.
Le médicament, on en parle donc dans cet ADN, à ne pas prendre n'importe comment, comme le rappelle cette campagne télévisée, et ne pas les abîmer non plus pour mieux les avaler. Ce sur quoi revient longuement la revue Prescrire. Il déconseille d'écraser ou d'ouvrir les médicaments, même si pourtant vous avez parfois du mal à avaler la gélule ou l'antibiotique prescrit par notre médecin. C'est vrai qu'on est parfois confronté à des antibiotiques qui ont la forme d'un énorme comprimé, mais cela peut entraîner des effets indésirables graves. Alors c'est vrai que certains d'entre nous, pour les plus petits ou les personnes âgées, certains souffrent de troubles de la déglutition et éprouvent des difficultés à avaler des comprimés ou des gélules trop volumineux. On le comprend. Malheureusement, cette situation conduit bien certains soit à omettre des prises de médicaments carrément, et alors c'est la cause d'échec du traitement, et d'autres font le choix, pour quand même suivre cette prescription médicale, et bien de modifier l'aspect du traitement en broyant les comprimés ou en ouvrant les gélules. Et bien c'est une mauvaise idée, comme le rappellent les rédacteurs de la revue Prescrire. Ces modifications peuvent avoir des conséquences cliniques graves pour le patient. Écraser un comprimé ou vider une gélule peuvent entraîner une surdose pouvant être mortelle ou une sous-dose avec inefficacité du médicament. Alors un exemple de surdose, lorsqu'une forme pharmaceutique à libération prolongée, donc qui prend son temps pour avoir un effet qui se prolonge dans votre estomac, dans votre corps, et donc quand elle est détériorée, eh bien la libération de la substance active et son absorption ne sont plus freinées et on aboutit donc à une surdose. Ainsi, l'exemple malheureux d'une patiente hospitalisée de 70 ans qui a souffert d'un coma et d'une dépression respiratoire après la prise de comprimés broyés d'oxycodone à libération prolongée. Alors l'oxycodone, c'est un analgésique très puissant qui peut soulager les douleurs sévères. C'est vrai que c'est un médicament particulièrement dangereux et puissant, mais même les petits médicaments doivent être pris en compte. Donc ne pas briser, ne pas broyer n'importe quel médicament. Et à l'inverse, lorsqu'une gélule contenant des éléments gastro-résistants est détruite, eh bien là, des sous-dosages sont à prévoir. Et donc, pour éviter ces effets néfastes, il y a bien sûr des solutions qui existent. Toujours en parler à son médecin, lui demander par exemple de vous prescrire une autre voie ou une autre forme pharmaceutique. Il existe par exemple des formes liquides buvables, des comprimés effervescents, à sucer ou encore des suppositoires. Toutefois, toutes les spécialités ne se présentent pas sous plusieurs formes, c'est vrai. Dans ce cas, il reste à utiliser un médicament voisin, plus adapté, ou encore s'il n'y a pas d'alternative suffisante, alors vous voyez avec votre médecin comment modifier les doses pour pouvoir peut-être écraser ou ouvrir ces gélules. Le médecin généraliste reste toujours la première personne de bon conseil, voire votre pharmacien aussi. Voilà donc pour cette news ADN.
Au positif,
ADN.
Et tout de suite, on va retrouver Véronique Thiberguien et ses invités pour ce dossier autour du trouble de la personnalité borderline.
Au positif,
le dossier.
Martin Desailles, Bernadette Grosjean et Nader Perroux sont les auteurs de ce manuel du borderline paru aux éditions Erol. Ils sont tous les trois psychiatres reconnus. Martin Desailles exerce ici à l'université de Namur en tant que professeur, et bien sûr. Et puis Bernadette Grosjean est avec nous depuis les États-Unis où il est déjà 3h du matin passé. Je le précise parce que comme ça, j'insiste sur l'importance de votre présence dans cette émission, Bernadette Grosjean. Alors, cet ouvrage, en plus, il était extrêmement nécessaire. Il est bienvenu. Parce que vous rappelez d'ailleurs dans le début de l'ouvrage à quel point ce trouble borderline a été parfois même méprisé, méconnu, mal interprété, alors que depuis quelques années, grâce à des psychiatres justement qui se sont véritablement penchés sur la question, on a fait de très jolies découvertes qui ont permis d'expliquer aujourd'hui très clairement de quoi il s'agit quand on parle de trouble borderline et qu'il s'agit vraiment d'une maladie qui peut se guérir aujourd'hui. Et ça, c'est une excellente nouvelle avec laquelle vous commencez dans cet ouvrage. Mais que de chemin parcouru, Bernadette Grosjean, pour en arriver là ?
Oui, en effet, pour le patient, vous voulez dire, et pour sa famille, j'imagine.
Oui,
oui, puisque bon, les problèmes sont importants, sont assez permanents quand on développe ce trouble, cette pathologie. Ce sont des problèmes au niveau de l'émotion, problèmes au niveau du comportement, de comportement impulsif, de comportement souvent self-destructeur ou autodestructeur, et des comportements que l'entourage ne comprend pas, l'entourage y compris les médecins, les psychologues parfois, qui sont confrontés. Et on avait tendance pendant très longtemps à dire à ces patients, leurs familles, ce sont des gens difficiles, oui. C'est pas vraiment un problème et de toute façon, il n'y a rien à faire. Et je pense que quand votre message d'emblée est « il y a de l'espoir », c'est fantastique parce que c'est vraiment le message que nous voulions aussi donner avec ce livre. Un outil, et oui, il y a moyen de s'en sortir. Ça va prendre du temps, ça va être difficile, oui. Il va falloir passer par toute une série d'étapes de connaissance de soi, de contrôle de soi, mais on peut tout à fait s'en sortir.
Martin de Saïs, c'est vraiment un ouvrage que vous avez voulu apporter à la portée de tous, hein, à la fois effectivement aussi du milieu professionnel, mais des familles, l'entourage, des personnes qui sont aussi elles-mêmes en souffrance par rapport à ce trouble borderline et qui ont parfois du mal aussi à comprendre elles-mêmes ce dont elles souffrent.
Tout à fait. C'est un ouvrage qui se veut un outil, et un outil à la fois clinique, mais un outil grand public de self-help, mais qui ne se substitue pas aux psychothérapeutes, aux médecins traitants et à la famille. Donc c'est vraiment une mise en bouche, si je puis dire, un premier pas, parce que l'identification, la reconnaissance et la compréhension pour soi ou de son proche qui est atteint, on va dire, ou en tout cas qui souffre, puisque c'est ça qu'on veut mettre en avant, mais qui souffre de tous ces troubles, de toutes ces dérégulations émotionnelles, cette reconnaissance de la part des autres et cette identification de « ah, enfin, je peux mettre un mot sur ce que j'ai et je peux le prendre en charge ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de le prendre en charge. C'est important et oui. C'est la première étape.
Alors, on peut comprendre quand même quelque part, si on est objectif, qu'on ait eu difficile à classer des personnes qui étaient en souffrance, que l'on peut aujourd'hui qualifier de borderline. Mais quand on voit ce que caractérise le borderline, la peur de l'abandon, des relations qui ont conflictuelles difficiles, la construction d'une identité qui est difficile aussi, des prises de drogue, souvent des comportements d'automutilation, voire suicidaires, des sentiments chroniques de vide, l'impulsivité, la personnalité paranoïaque, et souvent, les personnes qui sont atteintes de troubles borderline sont victimes de maltraitance. Alors on peut comprendre quand on voit le package, hein, même si on n'a pas forcément, j'imagine, toutes les caractéristiques du package en soi.
Tout à fait.
Quand on voit le package, on peut se dire effectivement, à un moment donné, on a du mal hein, à faire la différence entre tout et à ne pas se focaliser éventuellement sur un des troubles en particulier.
Tout à fait, c'est une excellente remarque. En fait, le nom même du trouble borderline vient de trouble limite, et c'est une catégorie un peu fourre-tout, hein, oui. Dans laquelle on peut voir différents troubles, comme vous dites, un peu hétéroclites de prime abord, où les patients n'étaient pas considérés comme névrotiques avant, ni psychotiques, et étaient un petit peu à la limite entre les deux, donc borderline. C'est utilisé de manière un petit peu galvaudée dans le langage commun. Oui. Hein, on va parler de borderline, quelqu'un qui est à la limite d'un comportement acceptable dans une entreprise, dans je sais pas, à l'université, à l'école ou dans une famille. Oh, il est un petit peu borderline, sans savoir vraiment que ça regroupe en fait des souffrances bien déterminées dans une partie non négligeable de la population, puisqu'on décrit quand même une fréquence entre 2 et 5% de la population, ce qui est énorme, c'est beaucoup plus que la schizophrénie, par exemple, dont on parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Ça veut dire, Bernadette Grosjean, que beaucoup de borderline ne sont pas identifiés encore aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'une autre caractéristique, c'est que ces symptômes que vous avez décrits ne sont évidemment pas présents de manière extrême oui. En permanence. Et que le stress, par exemple, peut être un fait qui va augmenter ces symptômes. Et donc, vous pouvez avoir un collègue de travail, quelqu'un, un compagnon, un enfant, un parent qui va fonctionner OK, qui va à son caractère, on va dire, c'est quelqu'un de très sensible, mais sans problème majeur. Et puis, lors d'un événement particulier, peut-être le souvenir d'un traumatisme, la répétition de quelque chose, tous ces symptômes vont exploser et sans que le conjoint ni que l'entourage comprennent exactement ce qui se passe. Et les médecins, à nouveau, ne savent pas toujours bien comment adresser cette difficulté. Et quand on ne sait pas comment adresser un problème, parfois on dit bah, « c'est pas un vrai problème ». Et donc oui, c'était compliqué à identifier de manière propre et de pouvoir apporter le traitement. Et de nouveau, pouvoir dire « c'est une vraie maladie » dans le sens « c'est pas quelque chose de honteux, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais ». Parce que c'est souvent une des images de soi-même qu'on peut avoir quand on souffre de problèmes borderline, mais c'est un vrai problème.
Mmh. Oui, c'est vrai que toutes les personnes, par exemple, qui souffrent d'automutilation ne sont pas forcément borderline, mais en tout cas, elles ont ce sentiment de honte, quoi qu'il arrive. Il est parfois difficile, du coup, d'en parler à la fois à son entourage et aux autres, y compris avec les autres caractéristiques du trouble borderline, qu'il est parfois aussi difficile soi-même d'identifier comme la peur de l'abandon. On verra le rôle de l'attachement tout à l'heure, bien sûr. Par contre, une chose qui a quand même permis des avancées assez importantes. Et là, j'étais très surprise que vous attachiez un paragraphe, un chapitre entier, Martin Lessay, à l'origine. Parce que si quelque chose de très difficile à mettre en place, c'est l'origine d'un trouble psychiatrique et à mettre en évidence. Et alors, une des choses qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a à la fois une composante biologique, mais aussi une composante environnementale. Et que les deux s'intermêlent, s'entrelacent de manière assez importante. Mais l'imagerie cérébrale, alors c'est un tout petit chapitre, mais moi ça m'a fasciné, ça vous a apporté quand même de sacrées pistes.
Alors c'est vrai que consacrer tout un chapitre à l'origine, c'est important, parce que c'est la particularité des pathologies, je dirais, psychiques, qui touchent le psychisme, les émotions, les pensées, les comportements, ont qu'elles dépendent vraiment de la période, de l'époque et de la culture dans laquelle elles s'inscrivent. Donc, on peut en retracer l'histoire via des connaissances sociologiques, psychiatriques, à partir du moment où elles se structurent sous forme de pathologies psychiatriques. Et c'est important de pouvoir le faire parce que ça relativise aussi. Tiens, il y a une pathologie, oui, mais qu'est-ce que les soignants font de ces personnes-là? Se remettent-ils en question quant à leur propre connaissance ou essayent-ils de comprendre la souffrance d'une souffrance naissante? Et on peut se dire que oui, dans l'avenir, il y aura d'autres souffrances naissantes dans les sociétés qu'il faudra pouvoir déterminer. Donc l'origine est extrêmement importante. Alors, origine environnementale, oui, alors on l'a dit, oui, maltraitance, mais ça peut être aussi événements chaotiques de vie. On peut penser à...
On parlait de personnalités qui déménagent souvent, qui n'ont pas de structure assise ou de racines assises, des choses comme ça, voilà. Des personnes qui sont déplacées aussi.
Voilà, des catastrophes naturelles, qu'elles soient volontaires ou involontaires, des déplacements non volontaires ou involontaires, des catastrophes naturelles qui poussent les gens, ou l'incompétence ou l'incapacité d'une personne qui est malade à un moment donné, qui ne sait pas s'occuper peut-être de ses enfants. Donc le message, c'est de dire, oui, il peut y avoir de la maltraitance, mais ce n'est pas toujours une maltraitance dirigée et intentionnelle de la part des parents et des aidants et des personnes entourantes. Donc il ne faut pas que ce soit un message de culpabilisation, c'est parce que tes parents ont été mauvais que tu vas devenir borderline ou que tu es borderline. Donc c'est pas ça du tout le message. Donc il peut y avoir une grande souffrance, mais ce n'est pas culpabilisant. Alors l'imagerie cérébrale nous apporte beaucoup d'informations quant au circuit de la régulation des émotions que l'on sait impliqué et au cœur de ce trouble de la pathologie, donc de ce trouble de dysrégulation, donc des émotions. Les émotions sont soit beaucoup trop fortes, soit beaucoup trop en retrait. Les investissements dans les relations, on parlera tout à l'heure sur l'attachement, sont soit beaucoup trop forts, soit totalement en retrait.
Tout est noir ou tout est blanc, mais il n'y a pas de nuance, quoi.
Pas de nuance, et les émotions là-dedans explosent bien souvent, en impulsivité, en passage à l'acte autodommageable, on se scarifie, on prend de la drogue, on a du sexe compulsif, ou ce genre de choses-là. Et dans ces circonstances-là, oui, de fait, l'imagerie montre que les substrats neuronaux et cérébraux de la pathologie sont, entre autres, tous ces circuits de régulation des émotions, circuits qui sont communs à la dépression, aux troubles anxieux, puisqu'on n'a qu'un seul cerveau et ça se passe toujours au même endroit quand il s'agit de pathologie naturellement.
Il est très fascinant de voir aussi à quel point l'étude sur l'environnement a été poussée dans des directions très actuelles, très sociétales et très modernes. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout voir dans le livre parce que sinon, il nous faudrait 2 heures d'émission au minimum. Mais on va quand même parler, et c'est le but aussi de cette émission, des traitements que l'on peut, qui sont à disposition aujourd'hui, à la fois les médicaments mais aussi les thérapies. On en parle juste après ceci.
Au positif,
le dossier.
Manuel du Borderline, paru aux éditions Erol, avec nos invités du jour. Nader Perrou n'est pas avec nous, mais il est co-auteur de cet ouvrage avec Martin Desseil et Bernadette Grosjean. Trois psychiatres qui sont sur le sujet depuis pas mal de temps et qui nous permettent, à travers cet ouvrage, de mettre des mots sur la souffrance que ressentent les personnes qui sont atteintes de troubles borderline. On en parle surtout et également parce qu'il s'agit aujourd'hui de prendre en charge le trouble borderline et de donner de l'espoir, puisque ce trouble est parfaitement gérable, voire guérissable, si l'on peut utiliser le terme guérir. Je sais que les psychiatres n'aiment pas quand on dit guérir. C'est un terme qui est un peu laissant, n'aiment pas tout à fait. Mais ici, on parle bien quand même de pouvoir aller de l'avant et se construire un avenir en dehors de ce trouble borderline. Pour ce faire, il existe différentes pistes qui ont été produites. Alors Bernadette Grosjean, est-ce qu'on peut dire que c'est de toute façon un peu dans le milieu anglo-saxon que ça a d'abord commencé, qu'on a commencé à voir émerger des thérapies qui pouvaient apporter véritablement un grand bénéfice?
Mais je pense qu'on pourrait dire qu'il y a eu des thérapies qui sont apparues structurées, qu'on a théorisées en livres et en manuels, oui. Et que ça s'est apparu plus dans le monde anglo-saxon. On traitait bien sûr des patients qui souffraient de troubles borderline, qu'on sache que c'était cela le diagnostic ou pas avant. Mais c'est aux États-Unis, en effet, le docteur Kernberg, qui est un psychanalyste au départ, qui s'est rendu compte que le modèle classique de la psychanalyse ne fonctionnait pas bien,
oui.
Et qui a changé un peu le cadre, si vous voulez, de la thérapie. Et puis, bien sûr, en France, d'autres psychanalystes, d'autres thérapeutes sont intervenus. Mais la deuxième grande vague, c'est alors des thérapeutes plutôt comportementaux, comme Marshall Linehan, qui a défini et écrit un manuel aussi pour une autre approche thérapeutique comportementaliste.
Oui, alors elle est fascinante parce qu'elle est elle-même malade et elle va prendre son destin en charge d'une manière assez exceptionnelle. Alors que franchement, avec ce qu'elle a vécu, je me suis un peu renseignée par la suite sur Internet. Enfin, elle s'en est pris plein la figure pendant des années. Elle a résisté. Et dans cette résistance, elle a trouvé le moyen d'essayer d'analyser pourquoi elle était comme ça, d'y mettre des mots et de trouver des thérapies, des solutions qui s'adaptaient d'abord à elle et puis pour lesquelles elle a remarqué que ça s'adaptait à d'autres aussi. Quoi. Elle est fascinante, cette dame.
Ah, c'est un parcours extraordinaire. Qu'on sache maintenant qu'elle a eu ses problèmes quand elle avait 17-18 ans, puisqu'elle a été elle-même hospitalisée, on lui a presque donné des électrochocs, elle a reçu de nombreux médicaments sans succès. Elle s'est échappée un peu en Inde où elle est allée apprendre la méditation. Et puis elle est revenue aux États-Unis, travailler comme assistante sociale et elle voulait travailler avec ces patients-là.
Oui.
Mais c'est seulement il y a 2 ans dans le New York Times, c'est peut-être ça que vous avez lu d'ailleurs, où elle a expliqué son parcours et elle dit qu'elle s'est livrée au public, un peu dans sa vulnérabilité. Suite à de nombreux patients lui avaient demandé pourquoi elle faisait ça et comment elle pouvait les comprendre si bien. Elle n'avait jamais vraiment répondu pourquoi ou si elle était dès lors. Et un jour, une patiente, un peu dans la lignée de votre émission, lui a dit « Marsha, est-ce que tu es des nôtres ?» Et Marsha a dit « Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi de savoir ?» Et elle a répondu « Parce que ça me donnerait de l'espoir. » Et elle a décidé alors de faire son coming out, comme on dit, et de définir cela. Maintenant, toutes ces méthodes thérapeutiques, la mentalisation, thérapie basée sur la mentalisation qui a été développée aussi en Angleterre par Batman et Fonagy. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir, et j'ai eu la chance dans les dernières 25 années d'avoir été formée un peu à toutes ces formats, ces manières de traiter, ont évidemment des points communs énormes. Mmh. La manière dont on va s'adresser à la personne, le cadre thérapeutique, le fait que vous pouvez trouver ces thérapeutes ou pas, là où vous habitez, va influencer votre choix. Mais c'est basé sur reconstruire des relations, identifier nos émotions, apprendre à manipuler, à gérer nos comportements, apprendre à rétablir un dialogue. Donc il y a vraiment des points communs de tout cela. Mmh. Et oui, Marsha Linehan est extraordinaire. Et vous pouvez la voir, d'ailleurs, elle a beaucoup de ses cours et de ses conférences sur Internet. Vous pouvez la voir en direct.
Oui, effectivement, j'invite vraiment les auditeurs, s'ils veulent, à découvrir cette personnalité étonnante. Parmi les psychothérapies dont on parle beaucoup, il y a la thérapie justement comportementale dialectique et puis le traitement basé sur la mentalisation. Alors, on ne pourra pas détailler l'ensemble, bien sûr, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le fait que ces thérapies qui sont proposées offrent véritablement des outils qui permettent une gestion quotidienne. Alors quand je dis quotidienne, il faut relativiser, hein, parce que, comme on l'a dit déjà, les troubles ne sont pas apparents de manière continue et que souvent ça demande un long temps d'adaptation et de prise en main de ces outils qui sont proposés. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans ces thérapies, il y a des choses très concrètes et que véritablement, souvent, on a besoin de ce concret, à la fois peut-être quand on est en personnalité borderline, mais surtout quand on est dans l'entourage. Et d'avoir des outils concrets, de se dire qu'il y a des choses très concrètes à mettre en place, je trouve que c'est très important. Et ces deux thérapies offrent quand même pas mal de choses.
Oui. Tout à fait. Le livre, d'ailleurs, contient pas mal à la fois de questionnaires,
oui.
Et puis de suggestions pour le patient, pour son entourage, commencer un dialogue, commencer à discuter de certains problèmes, comment trouver des moyens pour pouvoir se calmer en cas de crise. Et donc, c'est un peu le but. Et encore une fois, ça ne remplacera pas le long travail thérapeutique avec une personne compétente, la construction d'une relation et la découverte de toute une série de choses au travers de cette relation. Le travail thérapeutique prend certainement je veux dire, un an, 2 ans, plusieurs années, et vous allez avoir différentes phases. Il y aura la première phase où on essaye de contrôler, par exemple, les comportements automutilatoires, les tentatives de suicide, et ça, en général, quel que soit le mode thérapeutique, après un an, ces troubles sont sous contrôle. Le travail de se reconstruire ou de se construire une identité, ça va prendre bien sûr plus longtemps. Mmh. Et une dernière petite chose à propos de ces comportements, c'est un message d'espoir. Maintenant, c'est une vraie maladie. 10% des personnes qui souffrent de ce problème vont malheureusement mourir des conséquences d'un suicide ou d'un acte automutilatoire.
Ça nous donne l'occasion de parler des comorbidités. Pardon. Et ces comportements borderline conduisent à l'apparition de beaucoup de comorbidités qui sont là, alors pour le coup, plutôt pris en charge par des médicaments, Martin Desseilles, qui sont à disposition, qui fonctionnent plutôt bien dans ce cadre-là. Alors on a un arsenal hein, quand même, d'après ce que je disais. On donne en fonction évidemment des degrés, mais cela dit, ça passe des antidépresseurs aux anxiolytiques, en passant par les stabilisateurs de l'humeur. Donc là, véritablement, on essaye de sortir de cette spirale de la comorbidité qui est quand même assez importante.
Je pense que ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que le traitement du trouble borderline n'est pas un traitement médicamenteux, mais un traitement psychothérapeutique.
Le médicament est une béquille.
Mais le médicament peut être une béquille temporaire à certains moments pour aider... En fonction des comorbidités qui peuvent être vraiment multiples, ça peut être un trouble de l'humeur plus important à un moment donné, ça peut être des consommations de substances plus importantes, ça peut être un trouble d'hyperactivité et un trouble de l'attention. Donc ça peut être vraiment un tas de morbidités. Mais le médicament ne doit pas être le centre de la thérapie, même s'il peut aider. Je vais peut-être lancer aussi la parole à ma collègue outre-Atlantique, où les médicaments sont un débat aussi... très important.
On en donne trop, on n'en donne pas assez, Bernadette Grosjean, c'est quoi le point de débat?
Je pense que quand on n'a pas un outil pour aider la personne et qu'on a 15 minutes avec un patient, comme malheureusement beaucoup de psychiatres ont ici, c'est ce qu'on a tendance à faire, à un peu jeter des médicaments à la tête, à les changer, les augmenter. C'est presque un élément du diagnostic quand quelqu'un vient nous trouver à la clinique et qu'il a toute cette gamme de médicaments que vous avez décrite tout à l'heure, à des dosages divers. On a souvent pensé que c'est probablement, il y a une bonne chance que ce soit un patient avec un trouble borderline. On a un peu tout essayé au niveau médicamenteux, alors qu'en effet, la prise en charge est psychothérapeutique. Maintenant, vous avez par exemple 20% des patients borderline qui ont aussi un trouble bipolaire. Trouble bipolaire maniaco-dépressif bien réel, pour lequel là, il doit ou elle doit avoir un traitement médicamenteux. Donc ça complique parfois le tableau. Mais le trouble borderline à proprement parler, effectivement, les médicaments ça aide, c'est une béquille, mais l'équivalent, je vais dire, de la physiothérapie pour votre jambe cassée, eh bien ce sera la psychothérapie.
C'est ça, c'est comme ça qu'on réapprend à marcher.
Voilà, avec cet avantage qu'on peut expliquer aux patients, c'est qu'une fois que vous avez appris ces outils émotionnels et cognitifs, ils sont là, c'est dans votre cerveau. Oui. Vous avez construit vos nouvelles connexions neuronales et c'est voilà, vous n'en aurez plus besoin. Vous ne pouvez que continuer de s'améliorer par soi-même ou par d'autres thérapies plus tard.
Bernadette Grosjean, une des trois médecins psychiatres et psychothérapeutes, auteur de ce fameux manuel du borderline qui fait vraiment le tour de la question du trouble de la personnalité borderline. On les retrouve tous dans un instant, mais avant cela, voici Julien Clerc. Julien Clerc et le phare des vagabondes à 11h38 sur la première. Dans un instant, on retrouve Véronique Thiberghien et ses invités, auteurs de ce fameux manuel du borderline. Pour comprendre la personnalité borderline, elle abordera ce dont on parle depuis un bon moment, le trouble de l'attachement, véritablement, ce que c'est, et puis aussi, surtout, sa résilience après ceci.
Au positif de 11h à midi sur la première.
Alors je vais schématiser très fort et je m'en excuse par avance pour vous qui avez passé tant de temps à écrire justement et à l'écrire tellement bien. Les thérapies qui sont proposées, les traitements qui sont proposés aujourd'hui visent à faire comprendre aux patients borderline que la réalité est complexe et changeante. On parlait du blanc ou du tout noir. C'est faire comprendre effectivement que à la fois dans la vie, dans les relations interpersonnelles et dans sa relation à soi, il y a des nuances et que ces nuances existent et qu'il faut pouvoir les appréhender. Et puis c'est surtout permettre aussi aux patients de se voir tel qu'il est et tel que nous le voyons et plus d'avoir des projections d'images de lui-même qui sont en dehors de la réalité, même s'il les ressent très réelles pour lui-même. C'est presque un réapprentissage de la vie. On parlait de l'importance de l'attachement. Alors, je sais que dans votre langage, vous le cantonnez à une certaine position. Moi, j'ai presque envie de dire c'est l'attachement à la vie aussi, et d'extrapoler. C'est vraiment une question d'attachement à tout, quelque part, cette...
Tout à fait, tout à fait. L'attachement est vraiment au centre, en fait, de ce trouble. Et puis, la mentalisation est aussi au centre. Donc, si on a vécu des attachements difficiles, par exemple, imaginons un enfant qui pleure, et puis sa mère ou son père, ou le proche aidant, à ce moment-là, qui n'arrive pas à répondre et à être en phase, l'enfant ne va pas pouvoir apprendre à ce moment-là quelle est cette émotion qu'il ressent, quelle est cette douleur qu'il ressent, et il ne va pas pouvoir lier, finalement, ce qu'il peut ressentir dans son corps à des émotions. Et c'est extrapoler ça pendant des années, et on peut imaginer le réapprentissage d'attachement, de lien, et qui dit lien dit relation et relation psychothérapeutique, pour pouvoir réapprendre tout ça et vivre finalement des expériences émotionnelles qui vont être correctrices et un support pour pouvoir aller de l'avant.
C'est l'attachement à soi, l'attachement aux autres aussi, quelque part, réapprendre à avoir des relations interpersonnelles, et surtout réapprendre qu'elles peuvent être bonnes, mauvaises, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et qu'on vit avec, mais que ça fait partie de la richesse des relations. Au fond, c'est... Oui, c'est ça, c'est réapprendre à vivre ce que nous sommes au mieux de sa personnalité, en acceptant aussi ses bons et ses mauvais côtés. Cela dit, on l'a dit, le processus de guérison est quand même long, et qu'il faut accepter aussi cette longueur avec, j'imagine, des rechutes éventuelles, Martin Desailly. Ça ne se fait pas en quelques coups de cuillère à peau.
Tout à fait, donc il y a des rechutes éventuelles. La rechute fait partie intégrante, je dirais, du processus de guérison, puisque les personnes vont expérimenter elles-mêmes les outils. Un outil, ça va permettre de diminuer la souffrance, ça n'efface pas la souffrance, on ne gomme pas une vie, parce que sinon ça reviendrait à dire, on vous transforme complètement, on gomme votre vie, et non, tout ce qui a été vécu, vont être des choses sur lesquelles aussi les patients peuvent s'appuyer. Et c'est cette extraordinaire force de changement qu'on va appeler de résilience et de résistance, donc de résilience, de sursaut par rapport à cette adversité qu'ils auront vécue, avec des atrocités parfois dans leur vie personnelle ou qu'ils se seront fait subir en s'automutilant. Malgré ça, donc, cette résilience va faire en sorte qu'ils vont pouvoir être à même de pouvoir reconsidérer les choses, repenser les choses, revivre de manière émotionnellement différente ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien.
Alors, on a juste une question que je voulais aborder, parce que le reste a été abordé par rapport à ce que les auditeurs voulaient apporter dans l'émission, on l'a abordé, mais comment annoncer à une personne qu'elle est borderline quand on pense sincèrement qu'elle est borderline?
Je peux laisser Bernadette répondre. Sinon
oui, Bernadette.
Oui, eh bien sûr. D'abord, je pense que c'est important de savoir que c'est une bonne chose de pouvoir annoncer à quelqu'un son diagnostic, de mettre un nom sur les souffrances, à condition bien sûr qu'on le fasse de manière correcte, c'est-à-dire pas ce qui se passait pendant beaucoup d'années, c'est un trouble état limite ou borderline, il n'y a rien à faire. Oui. Mais maintenant, avec ces outils dont nous disposons, encore une fois, par les livres, par Internet, par les sites de soutien, par patients et familles, quand ça m'arrive en bureau de consultation, après, en hésitant bien sûr, parce que j'aime pas donner une étiquette, mais de proposer ce diagnostic à la personne en lui expliquant en quoi ça consiste, comme on l'a fait pendant cette émission, eh bien, j'ai envie de dire que presque à 100% des cas, peut-être 99%, la personne est soulagée. Parce qu'enfin, on met un mot sur quelque chose qui était là depuis tellement longtemps, qui avait été souvent mal diagnostiqué, donc la personne ne pouvait pas se reconnaître. Et quand on donne cette explication et qu'on dit qu'en plus on a un traitement extrêmement important, c'est un soulagement. C'est vraiment un soulagement. Donc évidemment, encore une fois, l'entourage, savoir qu'il y a des moyens de traiter est essentiel. Et des études avaient été faites d'ailleurs aux États-Unis à McLean. C'est un grand centre pour l'étude des états limites borderline. Oui. Et ils avaient montré que dans la grande majorité des cas, annoncer le diagnostic entraîne un soulagement.
C'est vrai que mettre des mots, et c'est ce que vous proposez aussi avec cet ouvrage, mettre des mots sur la souffrance, venir en aide à la famille ou à l'entourage, les aider à traverser, c'est l'objectif de ce manuel. Et puis vous avez créé un site qui s'appelle www.etalimite.com, etalimite en un seul mot, c'est un site de partage, Martin Desailly, c'est ça?
Bon, c'est un site d'information sur le livre dans lequel de fait les personnes, les visiteurs du site peuvent laisser des témoignages, des commentaires, des suggestions, et on pourra leur faire des réponses groupées via le site, donc ce n'est pas un forum dans lequel les gens peuvent interagir, mais c'est un site d'information. Il y a différentes ressources, différents sites des auteurs, donc les sites personnels des auteurs, des sites de spécialistes sur le sujet, des vidéos à voir. Donc c'est vraiment un site de support qui vient en plus du livre.
Manuel du Borderline, Martin Desey, Bernadette Grosjean, Nader Perrou sont les auteurs, c'est paru aux éditions Erol. Bernadette Grosjean, merci beaucoup d'être intervenue. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui en restent. Vous laissez vous reposer un peu. Merci également Martin Desey d'être venu jusqu'ici.
Jusqu'à midi, au positif.
La suite de notre feuilleton, les petits hasards de la science. Véronique Thiberguien, la scientifique Marie-Noëlle Charles, reviennent aujourd'hui sur ces avancées médicales qui passent parfois par des épisodes dramatiques de l'histoire, comme celui d'un bombardement à Paris, mais elles passent aussi par le monde des rêves.
Les petits hasards de la science.
Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher.
Quand on donne des médicaments de chimiothérapie, on va les injecter dans l'organisme et ils vont venir se fixer sur les récepteurs et prendre la place des facteurs de croissance. Du coup, en théorie, la cellule cancéreuse privée de son stimulateur va finir par mourir, la tumeur régresser.
C'est ici, à Ypres, le 22 avril 1915, que pour la première fois, les Allemands ont utilisé du gaz moutarde contre les Alliés. On l'a appelé comme cela car il sentait la moutarde et les oignons. En un jour, il y eut 10 000 victimes. C'était un gaz chimique mortel qui provoquait des brûlures aux yeux, au nez, aux lèvres, aux poumons. Certains soldats ont survécu aux attaques de gaz, mais ont été défigurés à vie. Ils n'avaient plus de paupières, de lèvres ou de nez. On les a alors appelés les gueules cassées.
Nous sommes en pleine guerre et à l'occasion de cette guerre, on utilise, notamment pendant la guerre 14-18, le gaz moutarde qui va faire des ravages. Et pourtant, c'est grâce à ce gaz moutarde que l'on va aussi faire une découverte intéressante lors de la Seconde Guerre mondiale.
C'est un drame qui permet de déclencher une grande révolution médicale. Alors le drame en question, c'est un raid aérien de l'armée allemande, fin 1943. Un raid aérien qui a lieu en Italie, sur la ville de Bari. Il y a plein de bateaux alliés qui sont coulés dans une nuit, un raid très court. On a comparé ce raid à celui de Pearl Harbor.
Ces restes d'armement remontent à décembre 1943, lorsque des avions allemands ont bombardé des navires alliés dans le port de Bari, dont un cargo américain qui transportait en secret du gaz moutarde destiné à une potentielle action de représailles au cas où l'Allemagne utiliserait des armes chimiques en Italie. Un emploi pourtant interdit par le protocole de Genève, signé dans les années 20 par Washington, mais aussi par Berlin et Rome. Le gaz moutarde qui s'est alors déversé a causé la contamination et la mort de nombreux soldats et civils.
Donc c'est déjà un drame, et ce que je dis dans le livre, c'est le drame dans le drame, c'est qu'en fait un des bateaux alliés qui a coulé avait une cargaison secrète qui n'avait pas été révélée, et donc qui fait aussi que peut-être que les secours n'ont pas été à la mesure de ce que ça aurait dû être. Et donc en fait les malheureux marins qui ont coulé et qui n'étaient pas noyés, qui ont un peu survécu, ont été repêchés, et donc en fait le problème, c'est qu'ils ont trempé un certain temps dans cette eau de la baie de Bari qui était imprégnée de ce gaz, qui s'est propagé donc dans l'eau de mer et aussi dans l'air. Et en fait, ils ont été repêchés. Comme ils n'étaient pas blessés, on les a mis de côté dans des couvertures. Et le lendemain, en fait, on a constaté qu'en fait, ils avaient d'énormes symptômes qui, pour certains, allaient jusqu'à la perte de la vue. Pas forcément définitive, mais des cloques, des brûlures. Enfin bref, ils étaient très très mal en point et c'était pas le contact avec une eau normale, quoi. Donc là, il y a un médecin, pareil, qui a fait le lien entre ces symptômes et ceux qui avaient été décrits par les médecins de la Première Guerre mondiale quand il y avait eu justement l'utilisation de ces gaz moutarde qu'on appelait. C'est comme toujours, l'information au niveau de l'armée n'est pas toujours très très fluide, on va dire, pour faire court. Mais malgré tout, il y a quand même quelqu'un qui a dépêché un spécialiste et qui a bien constaté que tous ces symptômes étaient liés à l'utilisation de ces gaz. Donc à partir de là, il y a eu des morts, il y a eu une centaine de personnes qui ont été touchées très gravement. Là, pour la petite histoire, moi j'ai retrouvé des documents. Il y avait pas mal de militaires anglais. Ces gens-là n'ont jamais trop su. Il y a quand même des documents qui datent des années 1900. 1980 dessus. Jamais trop su ce qui leur était arrivé, quoi. Donc au niveau humain, c'est quand même très très lourd, quoi. Et il y a eu des autopsies qui ont été faites sur les personnes qui étaient mortes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un taux de globules blancs très très bas. Et on s'est dit, si cette exposition à ce gaz, parce que c'était avéré que c'était l'exposition au gaz qui avait provoqué ces symptômes et ces morts, si ces gaz arrivent à mettre aussi bas les globules blancs, peut-être qu'on pourrait étudier cet effet dans un esprit positif pour lutter contre les tumeurs cancéreuses et contre les cellules cancéreuses. Et ça s'est avéré vrai, puisque des dérivés de ces gaz ont été utilisés dans les protocoles de chimiothérapie pour lutter notamment contre le cancer de la lymphe, la maladie de Hodgkin. Et donc ça a été un début, ça a été le point de départ, oui, de la chimiothérapie, en fait, quoi. Donc c'est un mal énorme qui a quand même débouché sur un grand pas médical.
Au réveil le matin, il y a certaines personnes qui vont se souvenir quasiment quotidiennement d'un rêve, alors que d'autres personnes s'en souviendront très rarement. Il y a une hypothèse, en fait le cerveau endormi n'est pas capable d'encoder une information en mémoire à long terme, et que donc pour se souvenir d'un rêve, il faudrait se réveiller, même une toute petite période très courte, pour pouvoir encoder le rêve et du coup le rapporter le matin au réveil.
C'est aussi un hasard heureux que l'on doit l'ouverture des portes des neurosciences grâce à un médecin appelé Otto Louis.
Alors oui, alors ce médecin, bah, il a fait une sorte de rêve prémonitoire et il travaille sur les cœurs de grenouille. Donc il a imaginé dans un rêve un jour un dispositif qui permet de montrer que la stimulation d'un cœur de grenouille provoque les contractions musculaires de ce cœur de grenouille. Et que si on recueille le liquide dans lequel se trouve ce premier cœur et qu'on le met dans un deuxième pot où se trouve un deuxième cœur, entre guillemets, on a aussi les stimulations, alors qu'on n'a pas fait la stimulation électrique de départ. Mmh. Et alors, le hasard qui est dans cette découverte, puisque c'est quand même la première mise en évidence de ce qu'on appellera les neurotransmetteurs, le hasard en l'occurrence, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler facilement un rêve prémonitoire. Mais il n'y a pas vraiment de prémonition là-dedans. C'est-à-dire que c'est bien de montrer que ce scientifique travaillait sur cette thématique et que son cerveau travaillait aussi la nuit. Et alors là où c'est un petit peu palpitant cette histoire, c'est qu'en fait un jour, une première nuit, il a fait ce rêve et il a imaginé le dispositif expérimental que j'ai décrit juste avant là.
Et il griffonne sur un bout de papier.
Mais mal. Oui. C'est-à-dire que le lendemain, il se lève et en fait, il manque quelque chose. Et la nuit suivante, son esprit est deux fois plus en éveil. Et là, il refait le rêve. Et là, il note tout de suite. Et il s'avère que le dispositif dont il a, entre guillemets, rêvé, est le bon. Et c'est vraiment cette démonstration qui prouve que l'influx et donc que l'influx nerveux est véhiculé par une substance chimique et non pas par une stimulation électrique.
Comment les neurones communiquent-ils ? Les informations, il les reçoit sous forme électrique, sur cette arborescence très fournie, les dendrites, jusqu'au cœur de la cellule neuronale où elles seront traitées. Le neurone déclenche alors un nouveau signal électrique qui va se propager à près de 400 km/h le long d'un câble. Et que trouve-t-on au bout de ce câble ? Un fabuleux ensemble de connexions organiques qu'on appelle les synapses. Lorsque le signal électrique arrive à la synapse, il libère dans cet espace d'un millionième de millimètre des milliers de molécules chimiques, les neurotransmetteurs. Ils déclenchent à leur tour une cascade d'orages électriques qui se propagent de neurones en neurones à travers les synapses.
Donc c'est le neurotransmetteur dont on a prouvé l'existence, en fait.
Et cela ouvre la porte à bien des découvertes concernant les neurosciences.
Voilà qui termine ce quatrième épisode de notre feuilleton Les petits hasards de la science. Et demain, eh bien, nous découvrirons bien d'autres choses encore en compagnie de Véronique Thiberguin, que je remercie déjà. Je remercie toute l'équipe de Positif, Laurent Nélissen, Yasmine Amoudou, Catherine Sorel, Sandra Veras.